à tous. Un mois déjà, depuis le dernier numéro de Vous à nous, où on vous dit presque tout, sur Principe Actif, 102.4 ou 95.9, et aussi nouveauté en DAB+. Aujourd'hui, nous allons vous parler des phobies et autres petits travers cognitifs. Et si vous êtes à table et si superstitieux, voilà, il fallait le dire, ne renversez pas le sel, hein. C'est un signe de malchance ou d'engueulade dans un couple, paraît-il. Et comme vous l'entendez, donc, nous changeons chaque mois de sujet, et souvent nous constatons qu'ils sont aussi traités sur des radios ou à la télé. Ne croyez pas que nous collons à l'actualité, car souvent nous choisissons les sujets avant qu'ils soient sur le devant de la scène. Flair journalistique alors ? Si c'est vous qui le dites, nous prenons. Et ceci dit, nous voilà partis pour une heure d'émission sans publicité ni fake news. Et avec toute notre équipe, et présentée aujourd'hui à quatre mains avec Anne-Marie, qui va vous expliquer la suite du programme, et il est riche.
Oui, Michel. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Durant cette émission, nous allons essayer de définir ce qui se cache derrière les mots, les phobies, les peurs, tics, manies, tocs, rituels et même les croyances et superstitions. Nous avons certainement dans notre propre... nous avons certainement toute notre propre définition, plus ou moins précise ou imparfaite concernant ces mots. Et pourtant, dans notre vécu, nous avons probablement été confrontés à des situations de peur, de phobie ou de manie, sans toutefois bien les identifier et les comprendre. Alors aujourd'hui, avec Michel, Gertrude, Missy, Marie-Claude, Sylvie, Florence, Michel et moi-même Anne-Marie, nous allons, à travers des chroniques, des témoignages et des interviews, essayer d'analyser tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Parce que poser le mot juste sur un constat permet un éclairage plus précis et une avancée dans la compréhension. Bonne émission!
Restez avec nous sur Principe Actif 102.4 95.9. Bonne écoute!
Alors, un rapport avec la santé mentale, Gertrude?
Oui, bien sûr. Oh, les tracas de la vie. Mais pourquoi dans certaines circonstances, une anxiété intense perturbe-t-elle notre quotidien et finit par empoisonner notre vie? Mais avant d'aborder le thème de notre chronique, mais je vous invite à prendre un court instant et décoller avec moi. Oh, nous voilà bien installés, paisiblement et confortablement dans la salle d'embarquement. Et soudain, on vous annonce. Les passagers du vol 27 en direction d'Évreux sont priés de se présenter à la porte A13. Mais à cet instant, c'est la panique. Le cœur s'accélère, les mains moites, une boule au ventre. Et pourtant, aucune menace est réelle, aucun danger à l'horizon. Juste cette peur qui nous envahit. Mais d'un coup d'un seul, je m'interroge. Mais chaque fois que je m'apprête à prendre l'avion, cette peur refait surface. Ben, pourquoi ? Ben, c'est une simple peur ou une phobie d'avion. Ben, sachez que ces états d'anxiété peuvent nous toucher de près ou de loin. Mais apparemment, ils se déclencheraient dès l'enfance, voire à l'adolescence. Mais souvent, ils se manifestent dans des situations particulières. Par exemple, parler en public, se retrouver dans des espaces clos, croiser certains animaux, la plupart c'est les serpents et les araignées, et j'en passe. Mais évoquer le sujet des phobies, mais c'est parler de la santé mentale. Mais car il n'y a pas de santé physique sans la santé mentale. On dit souvent, quand la tête va, tout va. On y ajoute aussi que tout est dans la tête. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, La santé mentale est notre capacité de faire face aux épreuves de la vie, mais qu'elles soient professionnelles, personnelles ou scolaires. Mais parfois, cet équilibre fragile peut être perturbé par notre environnement, par des événements bons ou mauvais, et surtout par le stress auquel nous sommes exposés. Mais regarde bien, la pandémie du COVID-19 a mis à lumière l'état de santé des Français. Mais en revanche, les Jeux olympiques de 2024 ont montré que le moral des Français pouvait remonter. Mais c'est pour ça que l'État a déclaré 2025 comme l'année de la santé mentale. Mais d'après les statistiques, un Français sur deux connaît ou connaîtra une fragilité psychique au cours de sa vie. Mais cela signifie que les troubles d'anxiété nous guettent et peuvent être très pesants. Malheureusement, ces troubles restent souvent tabous, même considérés comme une faiblesse. Alors, lorsque l'anxiété prend de l'ampleur, il est crucial quand même d'en parler à un professionnel. Ça signifie prendre soin de soi. Nous avons de la chance d'avoir de nombreux professionnels, des psychologues, des psychiatres, des sophrologues et même des formateurs en santé mentale qui nous enseignent des bons gestes simples pour mieux gérer nos émotions. Mais vous voyez, il y a du choix. Mais si cela vous intéresse, appelez la radio Principe Actif au 02 32 62 57 32. Mais je vous donnerai quelques coordonnées. Vous pouvez même laisser un message sur le répondeur. Bonne écoute.
Maintenant, nous allons écouter Michel. Michel et son témoignage. Alors, Michel, peur, pas peur ? Peur de quoi ? À toi, Michel.
Deauville, un soir de 14 juillet. Beaucoup de monde, place Morny. Des rires, des chants, des pétards. C'est la fête ! Et moi, j'éclate en sanglots. Ma mère inquiète me demande ce qui m'arrive. Incapable de parler, je lui montre de ma petite main d'une gamine de 5 ans un homme en face de moi. Il a le visage tout noir. C'est la première fois que je fais une telle rencontre. Et cette rencontre a marqué dans mes souvenirs le début de ma peur du noir. L'année de mes 7 ans, je rentre au catéchisme. Les cours sont donnés par un abbé, un jeune abbé, rondouillard, au rire facile, bref, d'un abord sympathique. Mais ce qu'il nous enseigne ne me plaît guère. Je n'aime pas quand il nous parle d'un Dieu éternel, de l'enfer, de l'apocalypse. La nuit me reviennent en tête ces cours et j'essaie d'imaginer ce qu'est l'éternité, la fin du monde. C'est affreux. Je ne réussis pas à concrétiser ces notions. L'angoisse s'empare de moi. Dans ma tête de fillette, je n'arrive pas à imaginer comment cela sera quand on sera mort et que cela ne s'arrêtera jamais. Autour de moi, le noir. Je suis effrayée. De la chambre voisine, mes parents m'entendent pleurer et s'empressent de venir me retrouver. Les jours suivants, mon père, qui est électricien, me fabrique une veilleuse en reliant à un transformateur une petite ampoule comme celle des lampes de poche. Devenu adulte, je n'ai plus ma petite veilleuse fabriquée par mon papa, car j'ai quitté le domaine familial après avoir commencé à travailler. Dans tous les appartements que j'occupe, je me débrouille toujours pour ne pas affronter les ténèbres. Dans mes différentes chambres, soit j'entr'ouvre les volets, soit je tire un peu le rideau pour laisser entrer les lumières de la ville. Bref, j'imagine toujours des trucs pour échapper à la peur du noir. Chez moi, il y a toujours eu un stock de bougies, de lampes de poche en cas de panne d'électricité. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à cette époque, je m'habille souvent en noir, devenu pour moi le comble de l'élégance, et non plus le symbole du deuil, la couleur de la mort. Arrivé à un âge respectable, je suis maintenant vêtue de bleu, et ma maison aussi, comme la couleur des yeux des êtres qui m'étaient très chers. Bleu, symbole de l'apaisement. Peut-être la énième façon de combattre ma peur du noir. Arrivé au terme de ma vie, je ne pense pas avoir été victime d'une phobie, mais de la peur d'une petite fille qui a su, en prenant de l'âge, se débrouiller, se raisonner pour dominer cette émotion.
Il faut dormir maintenant, les parents veillent sur vous, tout est calme et rassurant, bonne nuit petit loup. Blotti au fond de vos draps, les étoiles ont fait leur nid, c'est Morphée qui vous tend les bras. Bonne nuit, mes chéris.
J'entends comme un bruit qui remue dans le placard, un cliquetis, gesticulant dans le noir, ce doit être le vent, voilà ce qu'on me dit tout le temps.
J'entends quelqu'un qui respire derrière ma porte, une espèce de vampire à moitié cloporte, ce doit être dans ma tête, voilà ce que l'on me répète.
J'entends sur le toit, comme des bruits de pas, comme si Dracula tentait de rentrer chez moi, c'est mon imagination, voilà ce que l'on me répond.
J'ai peur du noir.
Pour rien, et c'était exprès.
On me fait croire
qu'il n'y a rien, mais c'est même pas vrai.
J'ai peur du noir.
J'y peux rien, j'ai pas fait exprès.
Il faut me croire.
Jusqu'ici tout va bien, mais après.
J'entends gratter sous le sommier comme des araignées qui grouillent par centaines et par milliers, ça doit être un bruit qui court, voilà ce qu'on me dit toujours.
Un monstre barbu, avec des yeux sur les ongles verts moulus, patiente tapis dans l'ombre, mais c'est moi qui débloque, voilà ce que l'on me rétorque.
C'est quand tout s'éteint que ça commence à défiler, sorcière lutin envahissent le plancher, mais c'est moi qui perds les pédales, voilà comment les gens me parlent.
J'ai peur du noir.
Il ne faut laisser aucune ouverture. Si je laisse, ne serait-ce qu'un pied dépassé, je me le fais manger.
Je sais qu'il n'existe pas, je ne suis pas un fou, mais c'est plus fort que moi, j'en devine partout. J'ai peur du noir.
Le soleil arrive enfin, debout les petits loups. Sachez que les seuls monstres qu'il y ait ici, c'est vous.
C'était La peur du noir par Aldebert.
Vous êtes en direct sur Principe Actif pour notre émission mensuelle de 12h30 à 13h30, DVNO VDPT.
Et voilà, nous abordons maintenant l'interview avec, et nous recevons aujourd'hui Monsieur Perron, psychologue à Évreux.
Enchanté.
Et qui va d'abord se présenter, mais surtout qui va nous apporter peut-être un éclairage ou différent ou plus, technique sur ce que sont les phobies, les manies, etc. À vous, monsieur.
Très bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Monsieur Perron Maximilien, je suis psychologue à Évreux. J'ai bossé dans pas mal de domaines, que ce soit le milieu hospitalier, le milieu associatif, auprès du handicap, ou en soins palliatifs et en cancérologie. Donc voilà, j'ai une vision assez généraliste de la psychologie. Alors, les phobies, les manies, les obsessions, les tocs, les tics, toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent avoir des points communs. Hein. Ce sont tous évidemment des symptômes et des fonctionnements psychiques qui ont chacune leur particularité, dans le sens où, dans la phobie, ou que ce soit les tocs, ou finalement peut-être on pourrait dire tous les symptômes psychiques et toutes les pathologies psychiques, il y a un point commun qui est qu'elles font diversion. C'est-à-dire que quand on est en train, par exemple, d'imaginer qu'on doit se laver les mains plusieurs fois, des dizaines de fois par jour pour certaines personnes, qu'on doit faire le ménage dans sa maison, c'est ce qu'on appelle des obsessions, des choses qui reviennent de manière extrêmement récurrente dans l'esprit humain, et on pourrait se dire qu'elles sont des fois bien inutiles. Cependant, les gens ne peuvent pas faire autrement que de les ressentir. Déjà, dans les deux exemples, un petit peu des deux récits qu'on a pu écouter précédemment, on voyait bien ce genre de logique où il y a quelque chose qui s'impose à la personne. Donc ça, c'est une manifestation de ce qu'on appelle l'inconscient, de toute cette partie de notre esprit qui fonctionne finalement à l'insu de notre plein gré. Et des fois, finalement, on se construit petit à petit en étant un peu dupe de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de fonctionnements sur lesquels on a le sentiment de ne pouvoir avoir aucune maîtrise. Alors c'est là que peut intervenir par exemple une psychothérapie, c'est-à-dire prendre conscience de nos fonctionnements inconscients et essayer de leur donner du sens. Alors spécifiquement, il est intéressant de classifier, de définir un petit peu mieux les différentes pathologies. Donc par exemple, ce que dans le langage commun on appelle des manies, c'est un terme, cela pour le coup, c'est intéressant pour la culture générale, j'ai envie de dire, qui est un terme qui a été détourné de son sens premier. La psychose maniaco-dépressive, c'est quelqu'un qui va avoir des montées maniaque, c'est-à-dire des sentiments extrêmement exaltés, la possibilité d'acheter, je sais pas, une Ferrari ou toute une cuisine dans la journée alors qu'il n'a pas les fonds pour ça. Et puis par d'autres moments, la semaine suivante ou un autre moment de la journée, il va avoir un sentiment dépressif très très intense, avec des idées peut-être des fois suicidaires ou des angoisses vraiment extrêmes. Mais finalement, dans le langage commun, on a utilisé ce terme manie pour l'appliquer à quelque chose de très différent, qui sont ce qu'on appelle en psychologie, plus spécifiquement, les obsessions. Donc, par exemple, l'obsession, la manie de la propreté. Donc, c'est intéressant juste voilà, pour la culture générale de savoir que c'est un terme qui est complètement utilisé de manière très différente par rapport à la manière dont il a été imaginé à la base.
Et alors, les phobies, c'est quoi exactement ? C'est plus prégnant ?
Alors, la phobie, c'est vraiment un fonctionnement très spécifique, qui est un fonctionnement à la base obsessionnel. On a des obsessions pour telle ou telle situation, objet, rituel. Et la phobie, spécifiquement, on va avoir des phobies, évidemment, autour des animaux, autour des lieux clos, au contraire des espaces ouverts, la phobie de la foule. Il y a même ce qu'on appelle l'agoraphobie, qui est vraiment une phobie généralisée où les gens ne peuvent des fois même plus sortir de chez eux. Donc ça peut être extrêmement intense, une phobie. Mais une phobie, finalement, la personne, elle s'en rend compte toujours. Elle est toujours capable de dire « je souffre de ça et je ne sais pas comment faire autrement pour le ressentir ».
Elle est consciente, en fait, de...
Une personne qui a des phobies, elle est consciente de ses phobies, en général.
D'accord.
Oui. Et c'est même tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'elle va verbaliser assez souvent d'ailleurs qu'elle est phobique. C'est une sorte d'affirmation de soi, c'est une part de son identité d'une certaine manière. Et c'est pour ça que des fois c'est difficile de renoncer à une phobie parce que à tout symptôme psychique, il y a des bénéfices secondaires. Un fumeur, par exemple, sait très bien que fumer, c'est mauvais pour lui. C'est écrit sur tous les paquets de cigarettes. Et pourtant, il ne peut pas faire autrement que de fumer. Alors, il y a évidemment l'addiction à la nicotine, mais il y a aussi tout un tas de bénéfices secondaires. Ça structure le temps, ça donne une récompense, ça permet de se sentir sevré de quelque chose. Et donc, il n'arrive pas à renoncer à ça parce qu'il y a ces bénéfices secondaires. Si fumer, c'était que négatif, on y renoncerait facilement.
Et puis, on a les mains qui sont occupées.
Tout à fait, oui, c'est quelque chose de contenant qui nous permet de nous sentir, en effet, occupés. Et c'est un petit peu, là, ça me permet de boucler sur ce que j'avais commencé par dire au début, c'est-à-dire que tous les symptômes psychiques, toutes les pathologies psychiques sont des diversions par rapport à des angoisses bien plus grandes, qui sont par exemple des angoisses d'abandon, des angoisses de mort, des angoisses de morcellement, qui sont des angoisses très primitives, qui sont des angoisses qu'on a depuis qu'on est tout petit. Quand on est enfant, on a toutes ces angoisses-là, j'ai envie de dire, un peu au même niveau. Et puis quand on devient adulte, on va se cristalliser sur une ou l'autre de ces angoisses. On va, ça va être un petit peu notre private joke à nous. Et donc on va, comme madame l'a dit tout à l'heure, se focaliser par exemple sur la peur du noir, ou sur la peur de monter dans un avion, ou sur la peur des microbes, ou sur la peur de parler en public. Alors il y a une infinité, j'ai envie de dire, de phobies possibles.
On a découvert ça, oui, en cherchant.
C'est-à-dire que finalement, chaque personne va avoir sa phobie à soi. Qui va dépendre un petit peu de son histoire et de ce qu'il s'est raconté à lui-même dans l'enfance.
Et alors, il y a des traitements, je suppose. Est-ce que vous avez reçu dans votre cabinet ou est-ce que vous êtes amené à traiter des phobies ?
Alors, j'aime pas trop la logique de traitement d'une maladie psychique, je vous en prie, mais parce qu'on ne guérit pas de la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est pas un problème en soi, on n'a pas une maladie qu'on porte, je n'aime pas trop cette logique. Chaque humain a sa particularité, a ses traumatismes, qui peuvent être des fois extrêmement forts et profonds, et il va se développer des mécanismes de défense face à ces traumatismes. C'est pour ça que, même si on retrouve des grandes catégories comme les phobies, mais chaque phobie est unique, ou quelqu'un qui va avoir une tendance à être paranoïaque, par exemple, ça va s'être construit dans son histoire. Hein, c'est toujours quelque chose de très spécifique à l'individu, et c'est pour ça que la seule thérapie qu'il peut y avoir, c'est d'aller chez un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, et de travailler sur son histoire pour pouvoir donner du sens à ses phobies, et j'ai envie de dire être moins dupe de soi-même.
D'accord. Michel voudrait vous poser une question.
Je vous écoute, Michel.
Face à un phobique, quelles sont vos paroles ?
Alors, mes paroles, c'est d'abord d'écouter ce qu'il a à dire, c'est de donner du sens à sa phobie. Hein. Ce qui est plus difficile dans la vie, face à toutes les problématiques que je rencontre face à mes patients, c'est de donner du sens à l'arbitraire de la vie. Hein. On a vu tout à l'heure dans les récits qui étaient faits qu'il y a souvent un point de départ à la phobie, un point de départ banal, un point de départ qui est venu toucher l'enfant qu'on était, et cet enfant, il va se raconter une histoire autour, il va donner du sens à ce qu'il peut. Et on peut faire par exemple le parallèle aussi avec les superstitions. Toute superstition, comme ça, c'est une manière de donner du sens à quelque chose de très universel ou au contraire de très subjectif. Hein, je pense à un ami qui un jour m'a dit, alors qu'il venait de perdre sa mère 2 jours avant, « Ah, j'ai vu un arc-en-ciel cet après-midi, c'est ma mère qui monte au ciel. » Ça lui a fait un bien fou de penser ça. Ça a donné du sens à ce qu'il était en train de vivre. Moi, j'aurais vu l'arc-en-ciel ou les 500 personnes qui l'ont vu autour ne se sont probablement pas dit la même chose. Il a rendu quelque chose de très banal comme quelque chose de très subjectif qui lui a donné du sens à lui. Et je crois que c'est ce qu'on fait tous. On se raconte des histoires. Et ces histoires, elles peuvent être nous donner du sens à l'arbitraire des choses. Hein. Une dame a un gamin de 10 ans qui a un cancer. Il va falloir qu'elle donne du sens à ça. Alors elle va peut-être chercher dans les études scientifiques. Elle va peut-être chercher dans, la génétique, elle va faire des analyses, ou peut-être qu'elle va se dire que c'est son voisin qui a mis du pesticide dans son jardin. Elle va chercher du sens, parce que c'est tellement arbitraire et tellement dégueulasse qu'à un moment, il faut chercher comme ça à structurer l'arbitraire des choses. Et c'est ça qu'on fait à travers les phobies, à travers les manies, à travers tous les fonctionnements, les TOC. Alors les TOC, c'est un petit peu particulier, c'est des pensées obsédantes, hein, troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire on a des compulsions, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des rituels ou des pensées dans sa tête. On va décompter dans sa tête des chiffres. Comme vous savez, on l'a tous fait quand on était gamin, de marcher par exemple sur les lignes ou sur les carrés, on marche sur des carreaux par terre. Et ça a une importance folle quand on est enfant. C'est-à-dire que les crocodiles vont nous bouffer si on ne marche pas sur la bonne ligne. Et bien l'adulte, il est exactement cet enfant qui a grandi et qui va se raconter peut-être une histoire un peu plus élaborée, mais qui reste son histoire personnelle. Et donc quand on va chez le psy, eh bien, on déconstruit cette histoire et ça permet d'être un peu moins dupe de soi-même. Ça permet d'affronter ses peurs et de se rendre compte que peut-être que monter dans un avion, c'est pas tant ça qui me fait peur, que la possibilité de devoir me sortir les doigts des fesses et être capable de m'occuper de moi-même dans un pays que je ne connais pas, de parler la langue, de résoudre des problèmes. Et c'est peut-être tout ça qui est contenu dans la phobie de monter dans cet avion.
Ouais, alors vous avez dit à un moment donné, c'est pas une question de guérison, mais on ne se libère jamais en fait de ces phobies.
On apprend à vivre avec soi-même. C'est ça qu'on fait chez un psychothérapeute, c'est que on change pas sa vie, on va pas changer le passé. Personne n'a ce pouvoir et cette baguette magique. Par contre, je vous dis, on est moins dupe de soi-même et des fois on accepte, on a de l'indulgence envers soi-même. On a le droit d'avoir peur de monter dans un avion. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Passer 12 heures assis à regarder 3 films qu'on a déjà vus, c'est chiant. À manger de la nourriture pas terrible, c'est chiant. Et évidemment que s'il y a un accident, on ne peut rien faire. Mmh. Et c'est cette sensation, encore une fois, de l'arbitraire des choses qui nous pèse. Mmh. Donc c'est là qu'il s'agit d'être adulte, c'est-à-dire de dépasser ses peurs et de se dire « ça m'emmerde, mais je le fais quand même ».
Est-ce que dans les patients que vous recevez, vous traitez, c'est pas le bon terme, vous accompagnez beaucoup de phobiques ou de gens qui veulent dépasser cet
état. Alors c'est intéressant de faire la nuance, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent avec ce symptôme, qui mettent en avant, c'est vraiment leur porte d'entrée. Ils me disent, voilà, je sors de chez moi, je suis obligé de vérifier 100 fois la clenche, la poignée, pour voilà, est-ce que c'est fermé ou pas. Et ils viennent pour ça. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas même conscience d'être dans ce genre de fonctionnement. Et c'est à travers nos échanges qu'on va petit à petit faire ressortir qu'en effet, ils ont des tics, des tocs, des tacs, tout ce que vous voulez. Hein, on en a tous parce que c'est le fonctionnement normal de l'esprit humain. Simplement, il y a des situations, des moments où ça va se focaliser, se cristalliser et devenir invivable. Et puis, il y a quelque chose qui fait, qui est en rapport avec le vieillissement aussi, c'est-à-dire que plus on vieillit, plus on est dans l'épure, plus on a creusé des sillons, des fois, pendant des années, et plus, des fois, il est compliqué de tracer un autre chemin. Donc,
Michel. Voilà.
Juste une dernière question rapide. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir de phobie, de toc, de manie?
Ah, ça, c'est bien, oui.
En général, on a d'autres symptômes qui peuvent prendre d'autres formes.
Oui, ça révèle quoi, finalement?
Je dirais qu'une personne normale, elle a toujours des petites phobies, des petits tocs, mais c'est une question d'intensité et c'est souvent des moments de vie qui vont faire qu'on va le vivre plus ou moins bien. On peut se laver les mains 10 fois par jour et être très bien avec ça pendant des années. Et puis un jour, on est passé à 50 fois par jour. Et là, ça devient insupportable, les mains sont sèches, on a mal. Et puis les autres nous le disent, mais pourquoi tu fais ça? Et là, ça, on va aller travailler dessus. Alors, je donne juste une petite référence comme ça. Ceux qui veulent bien comprendre comment fonctionnent les tics et les tocs, allez voir la série Bref de Kian Kojandi, la deuxième saison. Et lui-même se met en scène avec ses tics et ses tocs. Et c'est très bien expliqué, c'est très finement montré comment ce qui se joue pour une personne comme ça. Et quand il va mal, il en a plus, et quand il va mieux, il en a moins. Hein, c'est vraiment un mécanisme de défense, c'est une protection contre l'arbitraire de la vie.
Merci pour cette première partie. On se retrouvera plus tard pour échanger et puis pour encore d'autres questions, si vous voulez bien. Merci.
Très bien. Je vous remercie.
Et c'est à maintenant...
Peur de tout, parce qu'on m'a dit de faire attention depuis tout petit. De faire attention à qui, à quoi, je sais pas vraiment, mais bon, je les crois. Ils me l'ont tellement sermonné que j'ai fini par tout avaler. Maintenant, je reste tout seul chez moi. Je les écoute et je les crois. Ouais, j'ai peur qu'on fouille dans mes poches quand j'essaye d'aller travailler. J'ai peur qu'on me trouve un peu trop moche ou trop gros, mal habillé. J'ai peur des jeunes en bas de chez moi qui refont le monde sans arrêt. J'ai peur des gens que je connais pas et même de certains que je connais. J'ai peur de tout autour de moi. J'ai peur de tout, oui mais pourquoi? J'ai peur de tout autour de moi. J'ai peur de tout, de quoi? J'ai peur de tout, j'ai peur d'un rien. Peur de la nuit et du lendemain. J'ai peur de tout ce qu'on dit sur moi. Encore plus de ce qu'on ne dit pas. Maintenant j'ai même peur de mon pays. Je fais plus rien comme ils m'ont dit. Je laisse les puissants s'occuper de mes phobies et je me tais. J'ai peur quand il y a trop de monde autour de moi, je me sens serré. J'ai peur quand il n'y a plus personne à la fin pour me réchauffer. J'ai peur quand il y a trop de monde autour de moi, je me sens serré. J'ai peur de me retrouver seul, abandonné. Transport public, une fois la nuit tombée, c'est plein de jeunes, tous alcooliques, qui savent jamais là où aller.
C'était Peur de tout par les yeux de la tête.
Ouvre bien vos oreilles et rejoignez-nous sur Principe Actif au point 102.4 de 12h30 à 13h30 sur l'émission de vous à nous. On vous dit presque tout.
Et on continue avec Missy et sa chronique sur toutes ces petites manies. Les tics, les tocs, tic toc. Allez Missy, on t'écoute.
Eh oui, certaines sont charmantes, d'autres un peu pénibles. Bonnes ou mauvaises, nous avons toutes nos petites manies. Ne dites pas non. J'entends par là des habitudes, des idées fixes, des petits trains-trains qui nous accompagnent au quotidien. Moi, j'en ai et je m'en suis rendu compte en rédigeant cet article. Il y en a des ridicules, bénignes, incohérentes, absurdes. Mais que voulez-vous ? C'est parfois rassurant d'avoir des petits rituels, surtout quand on a tendance à être un peu anxieux. Tant que ça ne fait de mal à personne, je serais bien curieuse de connaître les vôtres. Certaines manies procurent une sensation agréable. Des manies mignonnes, comme boire son café toujours dans la même tasse, vérifier deux fois si la porte est fermée, relire un message trois fois. C'est un peu le fond de notre personnalité. Moi, j'ai plutôt des manies de contrôle, ranger, nettoyer, mettre de l'ordre. C'est une façon simple de calmer mon cerveau. Ça me donne un sentiment de clarté. Nous avons des manies car notre cerveau aime les micro-récompenses. Mais quand les manies deviennent de manière incontrôlable, compulsive, jusqu'à l'obsession, avec des pensées envahissantes, angoissantes, de façon permanente et qui perturbent la vie quotidienne, comment savoir si c'est un TOC ? Contrairement aux simples manies, qui sont des habitudes contrôlables, les TOC ont un impact sur la vie, créent une certaine souffrance, gêne dans le travail, les études, les relations. 2 à 3% de la population générale est concernée. La maladie débute avant 25 ans dans 65% des cas. Les personnes effectuent des gestes ou des actes mentaux répétés, sont préoccupées par le contrôle de soi et des situations, la peur de se faire mal ou de faire du mal à autrui, obsession de la contamination, hygiène, nettoyage excessif, douche très longue, lavage des mains jusqu'à l'irritation, par peur d'être contaminé ou sali, et en fera de même pour la maison. Des compulsions de vérification excessive, se tromper, oublier. On la craint de porter malheur ou qu'un malheur se produise, comme la peur de provoquer un incendie en laissant la gazinière allumée. Il y a aussi des troubles d'accumulation, ne pas jeter, amasser, collectionner de nombreux objets inutiles. Tous ces comportements ne sont pas évidents pour les autres. Dire à un proche qu'il pourrait avoir des TOC est délicat. Choisir le bon moment, éviter qu'il se sente attaqué ou jugé, décrire des faits concrets, lui proposer de l'aide à trouver un professionnel s'il veut en discuter. Par contre, le tic, est un mouvement ou un son involontaire et rapide. Cligner des yeux, hausser les épaules, émettre un petit bruit, faire une grimace. Mais la majorité des tics sont bénins et passagers. La fatigue, le stress, l'excitation augmentent les tics. Beaucoup d'enfants ont des tics en période scolaire, lors de changements importants, en cas de tension interne. Une activité physique, un sommeil régulier, de la relaxation font diminuer les tics. Derrière chaque tic et chaque obsession, il y a une personne qui lutte en silence. Comprendre, c'est déjà alléger le poids.
Merci. Et bien maintenant, un petit jeu à la mode, un quiz sur les peurs, bien sûr. Nous vous donnons le nom et vous nous donnez la peur. Pyrophobie.
C'est la peur du feu.
Oui, bien. C'était hein? Cadeau ça.
Ah, ouais.
C'était cadeau. Alors moi je continue avec la spectrophobie. Allez, spectrophobie.
Peur du spectacle.
Ben non. Non. Vous le voulez ? Peur des miroirs.
Ben on a un expert là avec
nous. Je l'avais pas celle-là. C'est pas commun. Ouais. Ça c'est dans les films d'horreur en général. Ah,
ouais. Allez, un autre. Entomophobie.
Anthropophage.
Non, on a la racine.
Les insectes, non.
Oui, les insectes.
C'est ça. Les insectes. Il y en a qui sont forts. Hein,
alors attention, pogonophobie. Les pieds ?
Non.
Pogo.
Peur des barbes. Pas de bol, monsieur Perron. Ah,
moi, je pensais que c'était les métalleux. Ils n'aimaient pas être dans les pogos. Ah.
Alors là, accrochez-vous. Hein. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs. Arachibutyrophobie.
Presque ça. Ah, oui, presque ça.
Presque. Ouais, alors, je vais vous le donner quand même. Ouais. C'est surtout les Américains. C'est la peur que le beurre de cacahuète reste collé au palais.
C'est bien américain, ça, quand même. Hein.
Ça, alors, comme quoi, là, je vous disais que c'était chacun son histoire.
Et la didascalénophobie. Oh, didascalénophobie.
La peur des disques microsillons.
Non, alors la didascalie,
la peur d'aller à l'école. C'est une phobie. Oui, disque. Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, on dit phobie scolaire.
Oui, c'est plus simple.
Et ça, c'est très, très commun aujourd'hui.
Mais on parle aussi de phobie administrative.
Phobie sociale.
Hein, oui. C'est ceux qui rejettent.
Les papiers.
C'est ça.
Moi, j'en fais partie. Absolument désagréable.
Allez, je vous en donne un qui est cadeau, là. Cynophobie.
La peur du cinéma.
Des chiens.
Non. Des chiens, exact.
Des chiens, c'est ça.
Ah oui.
Et l'oclophobie. Alors, moi, j'ai... Oclophobie, j'ai eu du mal à le
définir.
À le définir, oui.
Je ne sais pas du tout.
C'est la peur des foules et des rassemblements.
Ah oui.
Donc, on ne peut pas confondre avec l'agoraphobie.
L'agoraphobie, dans la plupart des gens utilisent l'agoraphobie.
J'ai peur d'être enfermé. Non,
un autre cadeau.
Ouais.
Aviophobie.
Oui.
Bah, l'avion.
L'avion, non.
La peur en avion, exact.
L'avion, oui.
Et alors là, super cadeau, claustrophobie.
La peur de
d'être enfermé
dans
les espaces clos, l'ascenseur et tout ça.
Allez, un petit autre. Misophobie.
La mise
à un pli. Allez, je vous le donne. C'est la peur des germes et des infections.
Ah, d'accord.
Alors attention, moi je continue. Alectorophobie. Alectorophobie.
Ah, peur de la lecture.
Non. Eh bien, c'est drôle, c'est la peur des poulets et tout ce qui est un peu galinacé.
Oh. Ah bon?
Oui.
Mais ça tombe bien, je suis végétalienne.
On poursuit. Amaxophobie.
On est passé. Non.
Mais c'est par la racine, c'est assez dur à trouver. C'est la peur de conduire un engin, donc la peur de conduire, les engins en général.
Alors là, c'est facile. Nyctophobie.
Peur de l'obscurité.
Voilà. Ah,
très bien.
Oui, oui. Les gens nyctalopes. Voilà.
Ah oui.
Ah oui. C'est ça. Je pensais que vous alliez parler du groupe que je t'interroge.
Et là, je vais vous donner la phobie la plus répandue au monde. Eh bien, c'est la peur de parler en public.
Ah.
C'est la première dans le monde entier, toute civilisation confondue.
Ouais. Ok, écoutez, c'est terminé le petit florilège des mots imprononçables.
Ça s'appelle comment, la peur ?
Alors, je vois que vous en avez barré une, l'hémétophobie, la peur du vomi. C'est quelque chose de très répandu. Et j'ai été étonné quand j'ai commencé à travailler de voir le nombre de gens qui avaient cette peur-là, qui était très peu connue et très peu médiatisée, mais la peur du vomi est très présente.
Ah bon ?
C'est la peur d'exprimer le mal en soi, d'exprimer ce qui ne va pas en nous.
Ah, c'est la peur de vomir, c'est pas la peur de boire du vomi.
Les deux.
Ah d'accord.
Souvent les deux en même temps.
Ah oui, d'accord. Ok. Écoutez, eh bien, normalement, c'est Florence qui a eu un empêchement bien indépendant de sa volonté, qui malgré tout a tenu à nous livrer sa chronique. Et finalement, c'est Marie-Claude qui s'en charge. À toi, Marie-Claude.
Alors, je vais essayer de retraduire ce qu'elle a écrit et surtout les noms absolument imprononçables. Alors, je ne vous les dirai pas tous. C'est pour ça qu'elle appelle là, elle n'a pas voulu. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est étonnant de voir que même avec des millions de femmes, de fans, excusez-moi, et des vies en apparence parfaites, les célébrités ont leur peur, ont des peurs totalement insolites. Donc, derrière le glamour, il y a souvent des phobies assez surprenantes. Tout d'abord, Jennifer Aniston et Whoopi Goldberg s'ouvrent d'aérodromophobie.
C'est le peur de l'avion. Moi, je croyais que c'était
l'aviophobie.
Voilà. Justine Tiberlec, et c'est l'arachnophobie, la peur des araignées. On en a déjà parlé. Alors, accrochez-vous. Catsaridophobie, peur des cafards qui gâchent la vie de Scarlett Johansson.
C'est qui ?
D'autres phobies. Alors, l'épidophobie pour Nicole Kidman, qui a des palpitations dès qu'elle voit un papillon. La coulrophobie pour Johnny Depp, qui a une peur démesurée des clowns. La reine de la pop, Taylor Swift, est terrifiée à la vue d'un oursin. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Madonna, qui souffre de brontophobie, qui est une peur irrationnelle du tonnerre et des éclairs. La peur des vaches, ou bovinophobie, entraîne chez Kate Winslet une détresse émotionnelle intense. Alors, un truc rigolo, celle-là. La bananaphobie, qui peut faire sourire, bien sûr, caractérise Louane, qui a confié souffrir dès l'enfance d'une peur bleue des bananes. Mais c'est jaune, les bananes, non ? Jennifer a la phobie des oiseaux. Encore quelques-uns. Pour Cadmalé, c'est la phobie des pieds. Bon. Virginia Efira a une peur irraisonnée des deux roues. Tout à l'heure, on avait de conduire. Marion Cotillard a la phobie des injections, ce qui lui fait dire que le Botox ou tout autre produit censé rendre plus jeune ne sont pas pour elle. Phobie pas très glamour, l'hémétophobie affecte la chanteuse Shaim. Et je terminerai cette liste à l'après-vert par Michel Drucker, que l'on sait hypochondriaque assumé. Donc, nul n'est parfait.
Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois, et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix.
L'éternel optimiste Henri Salvador, faut rigoler. Et maintenant, c'est...
Neuf, bonjour. On vous dit presque tout. De vous à nous, on va peut-être vous dire tout.
Oui, alors nous allons continuer avec Sylvie et une expérience vécue.
Oui, eh bien écoutez, j'ai le témoignage d'une amie qui s'est interrogée à un moment de sa vie. Bon, elle avait une maman très précautionneuse. Peut-être un peu trop. Et cette petite fille qui la voyait avec bienveillance et amour, bien sûr, tout désinfecté dans la maison a reproduit dans sa vie d'adulte des manies, comme se laver les mains toutes les 3 secondes, très souvent, c'est même effectivement, et ce besoin que tout soit assaini, que tout soit parfait, enfin voilà, c'était vraiment une obsession quoi. Elle a donc fini par comprendre que c'est son enfant intérieur qui reproduisait en partie ce qu'elle avait vu, entendu, petite. Elle a pu du coup, en parlant, relativiser et alléger ses manies au fil du temps. De base, bien sûr, c'était une qualité pour cette maman pensant au bien-être de sa famille, mais c'était juste un peu trop too much.
MC, Gertrude, Florence sont allées à la rencontre de Madame Inano Richeton, sophrologue, lors d'une de ses séances.
Nous sommes en présence, là, Florent, Gertrude et moi-même, MC, à la résidence senior de la Madeleine, avec Inano, une sophrologue, qui intervient auprès des résidents tous les 15 jours. Donc, Inano, je vous laisse vous présenter déjà.
D'accord, bonjour. Donc, Inano, je suis sophrologue depuis, ça va faire presque 10 ans maintenant. Et ben oui, comme vous le disiez, j'interviens dans des résidences autonomie, mais j'interviens également à la Ligue, j'interviens également dans une association sportive, enfin multi-activité plutôt, mais là c'est plutôt de la sophrogyme, un peu comme avec vous que je fais.
Alors oui, donc Inano, quel exercice priorisez-vous chez les seniors ?
Alors les mouvements du corps, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très important pour les seniors de bouger un minimum. Après les exercices, j'essaie d'adapter les exercices à chaque personne, mais le maître mot en fait, c'est de proposer aux personnes qui participent d'être attentives à ce qu'elles ressentent, attentives à leurs inconforts, quand c'est léger, mais aussi à leurs douleurs, et elles ne sont pas obligées de tout faire. Donc vraiment, le maître mot, c'est de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter ses douleurs, d'écouter ce qu'il nous dit. Alors certains seniors font vraiment tout, vraiment un peu comme Marie-Claude, sont vraiment très actives, et puis il y en a d'autres qui ont plus de difficultés, soit de vertige, soit au niveau des genoux, soit voilà, et qui font vraiment ce qu'ils peuvent ou ce qu'elles peuvent.
La respiration, je pense, est importante aussi dans la pratique de la sophrologie.
Oui, de toute manière, pendant les mouvements, on synchronise beaucoup la respiration avec les mouvements. Donc oui, et puis après il y a des, alors il y a, quand j'interviens dans les résidences autonomie, j'ai deux parties. J'ai une partie gym, enfin une partie mouvement, corps en mouvement, et une partie plus statique sur chaise, où là on travaille la respiration, la lecture du corps, la visualisation ou évocation selon comment sont les personnes, si elles sont capables de voir, et on fait une méditation, une relaxation également.
Alors quel bienfait en tirent-ils tous ces résidents ?
Alors déjà, je pense que ce serait eux qui pourraient vous répondre.
On les interrogera tout à l'heure.
D'accord. Mais sur les retours que j'en ai, c'est en fin de séance, c'est beaucoup de détente, beaucoup de relâchement au niveau des tensions. Certaines personnes me disent qu'elles avaient mal quelque part en début de séance et à la fin, elles ont moins mal ou plus mal du tout. Donc je pense que c'est selon leur capacité à lâcher, ça peut apporter beaucoup de bien-être et de bénéfices. Mais tout le monde n'est pas capable de lâcher, même pendant une séance.
Bon, le sujet de notre émission, ce sont les phobies. Donc c'est pour ça qu'on vous a demandé d'intervenir. Et en quoi donc la sophrologie peut aider à affronter ces phobies, à votre avis ?
D'abord par la respiration, c'est toujours pareil, et puis aussi par la visualisation. Souvent, on propose aux gens de se confronter par la visualisation. J'ai du mal à le dire, en revivant une phobie.
D'accord.
De se confronter, rien qu'en. Alors, j'ai pas travaillé sur beaucoup de phobies, mais j'ai travaillé avec quelqu'un sur le vertige. Donc voilà, on travaille dans la visualisation sur un vertige qu'elles auraient pu connaître ou qu'elles imaginent. Voilà, je suis pas capable de monter en haut d'une échelle parce que je vais avoir le vertige. Voilà, et on travaille beaucoup là-dessus. Et la respiration, elle est vraiment essentielle dans les phobies.
Parce qu'effectivement, je me suis un petit peu renseignée sur les phobies, puisque c'était le sujet de notre émission, c'est toujours l'occasion, effectivement, de se renseigner. Et a priori, donc, il faut se confronter à ces phobies. Il ne faut pas les ignorer d'après les études. C'est qu'en fait, si on a peur du vide, il faut se confronter au vide. Parce que plus on s'en protège, plus notre phobie va s'installer.
Oui. Surtout que les phobies, en fait, notre cerveau est là pour nous protéger. Donc, d'un danger. Beaucoup de phobies, par exemple, la peur des araignées, par exemple, d'une petite araignée qui passe au sol, il n'y a aucun danger. Donc, c'est apprivoiser cette peur, apprivoiser cette phobie et se dire, mais mon cerveau, voilà, il est bien, il me protège, mais là, il n'y a rien à craindre. Là, je n'ai pas de crainte à avoir d'une petite araignée qui passe ou... Voilà.
Eh bien, je vais passer donc la parole à Gertrude.
Est-ce que ce sont des séances individuelles ou collectives ?
Ce sont pour la plupart des séances collectives, mais j'ai pu faire des séances individuelles suite à des séances collectives, en effet, parce que les séances collectives, on est plus général, on travaille pas. Par exemple, la phobie, il faudrait que tout le monde ait une phobie, parce que voilà, on peut confronter une personne à sa propre phobie, mais pas un groupe à la phobie d'une personne. Donc En groupe, ce qu'on aborde est beaucoup plus général. Alors qu'en individuel, on est vraiment centré sur la personne. Donc, il y a eu des personnes qui, au sein des groupes, m'ont dit, ben, moi, j'aurais besoin d'une séance individuelle. Notamment, elle n'est plus là, je crois que cette personne, il y avait une personne ici qui m'avait demandé pour Parkinson, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'allais voir une fois par semaine, en plus, pour l'accompagner dans sa maladie.
D'accord. Mais comme le thème de notre émission, ça va être sur les phobies, quelles sont les phobies qui reviennent le plus souvent?
Alors, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout la peur du vide, beaucoup. Un peu la peur des araignées, mais bon, les personnes, ça empêche pas de vivre quand on a peur des araignées, parce qu'on en a pas tout le temps. Il y a un peu, alors c'est pas de l'agoraphobie, parce que c'est pas la peur, vous savez, de la foule, tout, mais c'est vraiment, parce que l'agoraphobie, les personnes ne sortent pas. Là, c'est des personnes qui ont peur de se mêler à un groupe, qui ont peur d'intégrer un nouveau groupe. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme phobie? Alors, moi, je représente pas tous les sophrologues, mais dans ma pratique à moi, ça a surtout été la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, la peur de quitter quelque chose de confortable pour un travail qui ne leur convient plus ou tout.
Est-ce que vous avez vous-même des phobies?
Alors, phobie, non. J'ai quelques peurs, des petites peurs, mais des phobies, non. Non, non. Parce qu'une phobie, c'est vraiment... C'est plus que d'avoir peur. Hein. Une phobie, c'est vraiment... Ça bloque, ça paralyse. Moi, j'ai pas ça, non.
Je voulais vous demander, donc, les phobies, combien de séances pensez-vous en général qu'il faut pour ne plus appréhender nos peurs ou...
Alors, d'après mon expérience, entre 5 et maximum 10.
Retrouvons notre invité Maximilien Perron. Et tout de suite, ma première question. Comment avez-vous trouvé nos échanges?
Très enrichissant et instructif. Je trouve ça très intéressant de passer de ressentis plus subjectifs, des petites études de cas, on pourrait dire, confronté à quelque chose d'un peu plus généraliste avec des définitions un peu plus précises. Donc ça me paraît toujours pertinent comme ça d'aller chercher des connaissances précises et en même temps de les appliquer au réel.
Est-ce que là, on va parler maintenant qu'on va continuer à parler de la phobie, mais un petit peu d'autre chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la différence entre un psychologue et un psychiatre? On se pose souvent cette question.
En effet, je pense que c'est une différence qui n'est pas toujours très claire dans la tête des gens. Et donc, on va la redéfinir. C'est assez simple, au final. Le psychiatre, lui, est médecin. C'est-à-dire qu'il a d'abord fait des études de médecine et il va se spécialiser en psychiatrie, comme il pourrait se spécialiser en neurologie ou en cardiologie. Et donc, il va faire une spécialisation de plusieurs années, il me semble 3 ans pour les psychiatres à l'heure actuelle. Alors que le psychologue, lui, a un diplôme reconnu et un titre reconnu de psychologue, mais donc c'est un diplôme universitaire. Alors, à mon époque, on disait des ESS aujourd'hui, c'est Master 2, de psychologie, avec des fois des spécialisations dans différents domaines, la psychologie sociale, la psychologie du développement, la psychologie et la justice. Moi, par exemple, j'ai été spécialisé en psychologie et justice à la base, pour travailler avec des personnes délinquantes, des psychopathes ou du genre de choses. C'est vraiment la distinction énorme entre les psychologues et les psychiatres, c'est que le psychiatre est médecin. Et donc, il a des prérogatives spécifiques, le psychiatre, c'est-à-dire qu'il peut prescrire des médicaments, comme n'importe quel médecin, au final, faire des ordonnances, avoir des remboursements de sécurité sociale que les psychologues commencent tout juste à avoir de manière un petit peu déséquilibrée. Ça, c'est un autre débat. Et les psychiatres peuvent faire aussi interner les gens, par exemple. Ils ont ce pouvoir de coercition, que les psychologues n'ont pas. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de cette différence, c'est que les responsabilités sont réparties différemment entre le psychologue et le psychiatre. Et donc, c'est des métiers qui sont complémentaires, sachant que les psychiatres souvent travaillent avec des pathologies, on pourrait dire, plus lourdes, des gens qui sont psychotiques, qui ont une sorte de symptômes psychiques très, très lourds et qui vont des fois passer par la case hôpital ou ce genre de choses. Alors que les psychologues, nous, on reçoit, on va dire, des gens un petit peu plus lambda, monsieur tout le monde, et sachant qu'on a tous, comme on le disait tout à l'heure, notre petite folie privée.
Gertrude, oui.
Voilà. Moi qui ai travaillé dans le social, on m'a toujours dit que je ne suis pas tombée là-dedans par hasard. Alors je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à
Qu'est-ce qui, moi, m'a amené à travailler en psychopathologie? Ben, une histoire personnelle, en effet. Moi, je suis issu d'un couple lesbien. J'ai très peu connu mon père. J'ai eu deux mamans pour le prix d'une. Donc déjà, c'est une bonne raison d'aller chez un psy. Et puis, deuxièmement, ma mère était psychologue aussi. Donc, c'est quelque chose... voilà, j'étais un peu baigné là-dedans. Sachant que jusqu'à mes 18 ans, jamais j'aurais pensé devenir psychologue. J'avais absolument pas envie. Je voulais devenir artiste ou prof d'histoire. Donc, rien à voir. Et puis, en terminale, j'ai fait de la psychologie. On a étudié Freud avec ma prof de philo, et là je me suis rendu compte que quand même ça m'intéressait sacrément et que je me sentais à l'aise là-dedans.
Michel,
Alors que l'heure est réputée pour être un désert médical, mais j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal pourvu en psychologue.
Eh bien, tout à fait, oui. Alors ça, c'est assez récent d'ailleurs, parce que moi, quand je suis arrivé à Évreux, il y a une quinzaine d'années maintenant, on était une petite vingtaine de psys avec beaucoup de psychiatres en fin de carrière. Et donc, il y a un moment, il y a eu un vraiment creux de la vague. Et suite au Covid et l'arrivée, je pense, de beaucoup de personnes de Paris ou de la région parisienne, on est aujourd'hui à une cinquantaine de psys sur Évreux, donc ce qui est presque, me paraît presque excessif par rapport à la population. Mais bon, voilà, je pense que ça, c'est des choses qui évoluent au fil du temps et qui se régulent tranquillement.
Comme quoi, il y a la température et le ressenti.
Exactement.
Michel.
Alors moi, j'ai lu dans une revue qui s'appelle Epsilon qu'il y avait de plus en plus de personnes qui consultaient l'IA, l'intelligence artificielle.
En effet.
Et alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les... Alors moi, je ne sais même pas comment ça se prononce. Chatbot.
Les chatbots, ChatGPT, Gemini ou toutes ces Google ou genre de choses. Alors en effet, j'ai même déjà eu des patients qui m'ont dit s'être entraînés à discuter avec un chatbot pour, par exemple, mieux draguer une fille ou être capable d'envoyer chier leurs parents, je ne sais pas, des choses assez concrètes. Et ils vont demander à Google d'avoir des conversations ensemble sur ces sujets-là. Et bon, jusqu'à présent, j'ai pas vu finalement l'aspect négatif de la chose parce que c'est vrai que c'est un outil et les gens l'utilisent comme tel, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est pas un psy qu'ils ont en face. Par contre, j'ai vu aussi des applications qui se disaient des applications psychologiques menées par une IA. Là, je conseillerais aux gens de faire très attention.
C'est très dangereux quand même.
Ça me paraît très casse-gueule et je pense que jamais, pour le coup, je pense être un des seuls métiers qui sera préservé d'être remplacé par l'IA parce que rien ne remplace un humain qui en écoute un autre.
Eh bien, nous écoutons toujours la radio, mais là, on va être obligé d'arrêter. Hélas, on arrive à notre temps d'antenne. On vous remercie beaucoup.
Mais je vous en prie, j'espère que ça a été intéressant.
C'était très instructif pour tout le monde, je pense. Et on passe à la bonne nouvelle, je pense.
Oui.
Voilà.
Bien, c'est une bonne nouvelle que j'ai trouvée ce mois-ci sur le site RTBF Actu. Quand le simple fait de regarder la nature guérit. Passer du temps dans la nature a un effet profond sur notre bien-être. Il n'est pas nécessaire de s'immerger en pleine forêt pour en ressentir les bienfaits. Une étude publiée dans la revue Nature Communication montre que le simple fait d'observer des paysages naturels, ces plantes d'intérieur, suffit à réduire l'activité cérébrale liée à la perception de la douleur. Alors, passer du temps dans la nature peut stimuler la créativité ou faire baisser l'anxiété. Et là, je rejoins le thème de l'émission. De nombreuses études et recherches ont bien démontré que le contact avec la nature sur la santé physique et mentale est bénéfique. Les résultats de ces études jettent les bases de futures recherches en explorant l'interaction complexe entre les émotions, la santé et l'environnement naturel. L'intégration d'un contact régulier avec la nature dans l'expérience quotidienne pourrait donc constituer un moyen puissant de promouvoir la santé publique, de favoriser la résilience face à la myriade de défis de la vie moderne.
Voilà, l'émission touche à sa fin. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la préparer. De vous à nous, nous vous avons dit presque tout, presque, parce que le sujet est vaste. Mais grâce à toutes ces chroniques et témoignages, et grâce aussi à l'éclairage de notre invité, Monsieur Perron, nous avons pu décrypter et comprendre les souffrances des personnes concernées par ces troubles. Nous avons pu voir, grâce au jeu quiz que nous avons proposé, le nombre incroyable de peurs avec des noms parfois imprononçables. Et au-delà du jeu, toutes ces angoisses aux racines complexes. Ces mal-être, les stratégies mises en œuvre avec une dépense d'énergie telles qu'elles peuvent désorganiser la vie quotidienne. Cependant, je trouve une prise de conscience de plus en plus prononcée au sujet de ces troubles qui s'opèrent dans notre société. La preuve, toutes les thérapies proposées, évoquées par Gertrude dans une chronique ou même par les explications de notre invité, M. Perron. Je ne vais pas les rappeler, hein, thérapie cognitive, accompagnement médical, reconnexion à la voiture, à la nature. Il y a certainement une solution adaptée pour chacun. C'est donc la bonne nouvelle de cette émission. Plus personne n'est laissé à l'écart. Donc, nous allons nous quitter sur cette note optimiste, nous retrouver avec un autre sujet dans un petit mois. Toute l'équipe d'ici là vous souhaite le meilleur, des bons moments et prenez bien soin de vous.
Voilà, j'espère que vous n'avez pas vu le temps passer. Il est 13h31, nous étions en direct et bonne journée à tous.
Au revoir.
Au revoir. Allez.